Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale ouverte à toutes les cultures, dans toutes les disciplines. Voici le sommaire. Et nous allons vous faire voyager une nouvelle fois au cœur de l'été, où que vous soyez dans le monde, avec humour, impertinence et pertinence, enfin autant que possible. Laurent Godet a carte blanche cette semaine, auteur de poésie, de théâtre et de romans, auteur citoyen du monde complet et complexe, d'une grande générosité. Laurent Godet a fondé son travail sur le partage et la bienveillance. Il est le rédacteur en chef de notre séquence Le Club Francophone. Bonjour Laurent.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Bah ça va. Écoutez,
il fait chaud,
c'est ce que j'allais dire. Vous avez invité un grand auteur, lui aussi réceptif au mouvement du monde et passionné de vélo.
Absolument, monsieur Eric Fotorino qui est avec moi et que je remercie beaucoup d'être ici.
Bonjour Eric Fotorino.
Un grand plaisir, bonjour à tous les deux, bonjour Emmanuel, bonjour Laurent.
Vous connaissez bien la librairie francophone, hein. Vous êtes fidèle vous aussi. Merci de revenir nous voir avec Laurent Godet, vous serez tous les deux ensemble tout à l'heure et ça va être palpitant, j'en suis sûr. Le grand entretien aujourd'hui sera une rencontre entre deux artistes, l'acteur Benoît Poelvoorde et le dessinateur Daniel Gossens depuis Namur en Belgique. Attention, grand moment surréaliste. L'artiste camerounais Blik Bassi jouera lui un titre dans nos studios. Vous découvrirez un lieu dans une ville du monde avec notre reportage francophone hebdomadaire. Sans oublier notre séquence humour inédite avec un humoriste.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et on commence avec un livre de poche pour votre été sur la plage ou ailleurs. Chaque semaine, nous vous proposons un entretien avec un auteur qui sort en poche un roman que nous avons sélectionné pour vous. La très populaire écrivaine québécoise Marie Laberge avait publié « Ce qui reste » en 2016. Eh bien, il vient de paraître chez Pocket. Bonjour Marie Laberge.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une écrivaine québécoise très connue. Alors on va parler de votre nouveau roman, Marie Laberge, Ce qui reste, avec un portrait très sombre. Sylvain, 29 ans, s'est pendu dans la maison de campagne de son enfance. Vous pensez que le suicide condamne les survivants ?
Je pense que ça dépend des gens. Je pense que c'est un test de force intérieure, de force morale qui est un des pires qu'on puisse traverser. Je pense qu'on le fait selon ce qu'on est capable de faire. La mère est dans un déni total. Le père, lui, se bat. Mais en même temps, ça le change complètement. C'est un homme qui réapprend sa vie. C'est un homme naïf qui a perdu sa naïveté. Et c'est pas mauvais de perdre sa naïveté à un certain moment dans la vie. Et même que si on la perd un petit peu avant, c'est pas grave.
C'est vrai, Marie Laberge, qu'il est très sombre, ce livre-là.
Ah, pas pour moi, c'est fou. Ah, parce bon que c'est un livre sur la vie, sur la force de la vie. C'est un livre sur le deuil accompli, terminé, fait. Un livre, c'est sûr que quand quelqu'un se tue dans notre entourage proche, on ne peut pas penser qu'on va vivre comme avant. Mais c'est pas grave, l'important c'est de vivre comme maintenant. Et pour moi, ce livre est un livre qui n'est pas sombre, même s'il part d'un point de chute assez terrible et assez terrifiant. Ça, je suis d'accord.
600 pages de douleur, quand même, pour cette famille.
Non, de récupération de la vie.
La maladie qui rôde, vous en rajoutez en plus une couche avec la maladie, le cancer.
Non, parce que ce sont des pertes.
C'est compliqué quand même.
Toutes les pertes s'inscrivent. Oui. Et toutes les pertes ont des échos de cette perte violente. Oui. Et c'est ça qui attend tout être humain qui perd quelqu'un par suicide. Ça veut pas dire que la perte est la seule chose qui existe. Ça veut dire qu'on doit la vivre. Et dans mon mouvement à moi, ce qui m'a fait écrire ce livre-là, c'est l'envie de prendre dans mes bras tous ceux qui ont eu si mal et dont on ne parle jamais.
Alors vivre, c'est aussi le sexe, Marie Laberge. Le sexe qui a une très grande importance, peu importe les différences d'âge, vous montrez que l'épanouissement sexuel tient les couples. La baise olympique, comme vous l'écrivez crûment, c'est un bonheur suffisant, ça ?
Ben, c'en est un. Ça fait partie d'un des... Non, mais quand même, il faut pas passer à côté. Ce serait dommage. Il y en a qui passent à côté et je les plains, mais il reste que... Bien sûr que c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, la baise olympique, si elle n'est qu'olympique, elle ne sert à rien. Elle ne sert pas à développer rien d'humain.
C'est la compétition.
C'est en même temps la compétition, mais c'est aussi accessoiriser le sexe. C'est plus la même chose.
C'est vulgaire ou pas?
Oui, c'est assez... Ouais. En fait, la baisse olympique, c'est vraiment genre, on va courir ça. Il y a comme quelque chose de, on court après son plaisir, on obtient son plaisir, bye-bye.
Et on fait des performances.
Un peu, ben, olympique, ah oui. Olympique, hein, mais il y a 3 degrés, là, tu sais, il y a le bronze, l'argent, l'or. Non, c'est un peu... non, c'est pas ça. Mm-hmm. Pour moi, ça n'englobe pas ce que le sexe devrait être.
Vous avez eu des médailles, vous, Marie Laberge?
Oh, moi, je parle pas de moi. Moi, je parle de mes personnages.
Ah, bien sûr, vous en sortez bien.
Ben non, mais quand même.
Ah, ben quand même, oui.
Est-ce que vous vouliez vraiment savoir mes médailles? Non. Mais il reste que je pense que le sexe peut servir à éteindre l'humain en soi, comme ça peut servir à l'exalter. C'est quand même quelque chose d'assez magique, puisque ça peut faire les deux.
Et ce qui reste de Marie Laberge est paru en poche chez Pocket. Avant de partir au bord du canal Saint-Martin à Paris avec la communauté iranienne et le grand photographe Reza, voici une découverte musicale avec l'artiste Petit Fantôme et un extrait de son titre « Libération terrible » dans la librairie francophone estivale. Petit Fantôme avec Libération terrible sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Queyrade.
On fait escale au bord du canal Saint-Martin avec un très grand photographe qui a couvert de nombreux conflits dans le monde. Proche du commandant Massoud et aussi grand militant pour la paix, l'Iranien Reza fascine le monde avec son regard photographique, esthétique et humaniste. Il nous fait découvrir son quartier lorsqu'il est arrivé en exil à Paris, un quartier très fréquenté par la communauté iranienne grâce au centre culturel Pouya, installé juste en face d'une de ces célèbres passerelles qui enjambe le canal et face à une écluse.
On est au bord du canal Saint-Martin et avec d'une part la musique de l'eau qui est en train de remplir l'écluse parce qu'il y a un bateau qui vient de passer. Et quand j'habitais au bord du canal, enfin, c'était devenu l'endroit où je passais énormément de temps, marcher le matin, le soir, regarder l'eau, photographier aussi beaucoup.
Bonjour Reza, merci beaucoup de nous accueillir ici à Paris, dans votre quartier finalement, puisque lorsque vous avez quitté l'Iran, à l'époque de la révolution islamique, vous êtes arrivé d'abord à New York, hein, je crois, puis à Paris, vous vous êtes retrouvé dans ce quartier, vous avez fréquenté une école de photographie, tout a un peu commencé ici.
J'ai commencé ma vie professionnelle et autre, c'était vraiment autour de ce canal. Et cette eau qui est merveilleuse.
Ouais, qu'on entend là avec un bateau, regardez justement, qui attend que l'écluse se remplisse pour pouvoir être au niveau et passer de l'autre côté. Hein. C'est très étonnant, hein, ces écluses ici à Paris. Alors c'est un canal qui va jusqu'à la place de la Bastille, place emblématique pour tous les Français, on va dire. Et voilà, là, l'écluse là, voilà, qui se remplit. Et puis donc ces arbres permettent des percées de lumière avec le soleil comme ça qui s'immisce et qui arrive à éclairer une partie du canal ou une partie de l'écluse ou les passerelles qui sont autour de nous. Vous avez exposé dans le monde entier, vous êtes l'un des photographes les plus célèbres au monde et vous menez aussi des initiatives, des actions auprès de la jeunesse, partout dans le monde, en Argentine, en Afghanistan, vous l'avez fait aussi au Rwanda, partout où vous pouvez aider la jeunesse, vous le faites et à travers la photographie. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites exactement?
En réalité, assez tôt, j'ai compris l'importance de l'image et de la photographie dans la vie moderne, dans notre histoire, dans notre ère. On est rentré en 21e siècle où l'image et la photographie est presque devenue le vecteur principal de relations humaines. Il faut répandre ça au maximum. Donc depuis exactement 1983, j'ai démarré parallèlement à mon travail photographe une activité qui est où je vais, surtout dans les pays en guerre, dans les pays en difficulté, dans tous les endroits où, quelque part, société civile est endommagée. Parce que beaucoup de racisme, beaucoup de préjugés, ça vient de méconnaissance, ça vient de cette ignorance, je dirais, de l'autre. Or, l'image et la photographie, aujourd'hui, est devenue le vecteur principal de connecter les gens, de connecter les cultures, de montrer qui est l'autre.
Et d'avoir un regard aussi sur l'autre et sur le monde. C'est ça qui change tout. Et vous me le disiez, là, juste avant qu'on commence ce reportage, vous me disiez, les jeunes, en fait, ils arrivent à se réinsérer dans la société parce que quand ils commencent la photographie, ils regardent la vie autrement. Et ça, c'est possible, ça, vraiment. On a du mal à le croire, mais c'est possible.
Ça suffit d'aller trouver les centaines d'élèves que j'avais depuis partout dans le monde, plusieurs centaines, peut-être même milliers, je n'ai pas compté. Mais de les voir et de voir, oui, ceux que je connais, ils ont vraiment été réinsérés dans la vie, beaucoup de regarder différemment, parce que ce n'est pas la photographie que je les apprends. Enfin, je les apprends comment il faut avoir la curiosité, surtout, et comment il faut regarder autour de soi.
Alors on va regarder autour de nous, justement. On va monter sur cette passerelle. On se promène ici pour la librairie francophone estivale dans le quartier du canal Saint-Martin, on va dire. Un quartier très fréquenté par les Iraniens. On va comprendre dans quelques minutes parce qu'on n'est pas là par hasard et on monte sur une passerelle qui enjambe le canal Saint-Martin. On arrive sur une sorte de ponton de bois. C'est très étonnant d'ailleurs, ce ponton de bois. Je sais pas si on voit l'eau à travers. Au milieu du canal, en hauteur. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un élève, là, Reza? Il prend son appareil, là, déjà. Le réflexe.
Pardon. Là, il y a une très bonne lumière. Vous voyez, sur les gens, sur le bateau, il y a une très bonne lumière. Et avec le rouge qui reflète dans l'eau vert, oui. Ça fait un très bon contraste couleur.
Alors, on a un canot, effectivement, de sauvetage, apparemment. Ce sont des secouristes qui sont sur un canot gris, sur ce canal Saint-Martin, avec l'eau plutôt verdâtre, effectivement. L'écluse qui s'est remplie, et les portes qui s'ouvrent, le canot qui arrive, et Reza qui est en train de photographier cette scène avec la lumière, effectivement, du soleil qui se reflète sur l'eau. C'est absolument magique. Magique. Très poétique, très parisien.
C'est merveilleux, ça. C'est...
À la douaneau, un peu. Bon, Reza, en tout cas, vous avez toujours photographié pour exposer la paix, pour exposer l'espoir aussi, car vous avez énormément souffert quand vous étiez jeune, en Iran, torturé, emprisonné. Vous étiez comme ça, en train de coller la nuit vos images sur les murs de Téhéran. Vous étiez en opposition totale. Il y a un grand souvenir, je sais, une grande émotion quand on vous parle de ces moments-là. Et aujourd'hui, en fait, finalement, vous êtes devenu un homme de paix et vous avez voulu porter cette parole-là. Et toutes vos photographies, soit elles racontent des cultures, soit elles racontent des traditions, elles ouvrent finalement l'esprit du spectateur.
Je me suis mis beaucoup plus à essayer, que ce soit en Afghanistan, au Kurdistan irakien maintenant depuis 3 ans, ou dans plein d'autres pays, de photographier, même pendant la guerre, la vie comme ça continue. Montrer la résilience de ces gens pendant la guerre, montrer la beauté de la vie, tout en montrant qu'il y a la souffrance aussi. Mais la souffrance, j'ai jamais cherché dans le corps déchiqueté des gens. J'ai cherché dans les yeux de petites filles.
La fameuse photographie d'une petite fille afghane, je crois, c'est ça?
Oui, ou plein d'autres êtres qui sont pris dans le piège de cette souffrance qu'est la guerre.
Dans le regard et dans les visages que vous essayez de transmettre quelque chose, mais jamais dans la violence ou dans le sang, jamais. Vous êtes un photographe de guerre, mais qui ne montre pas l'horreur de la guerre.
Constamment, toujours voulu de créer ce lien entre les peuples. À un moment, j'ai compris aussi que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Il faut arriver à un moment où les gens ils font assez confiance pour ouvrir les fenêtres de leurs âmes.
Bon, on va descendre de cette passerelle, on va continuer cette promenade ici autour du canal Saint-Martin avec un centre culturel qui est juste face à nous, qui s'appelle le centre culturel Pouya. On va y aller dans quelques instants puisque c'est un centre culturel iranien très important où se retrouvent tous les Iraniens de Paris mais aussi de France qui passent à un moment ici. Venez Reza, on va se faire renverser mais c'est pas grave, allons-y, on va essayer en tout cas de... Voilà. Allons-y.
Voilà, nous y sommes. Tu vois, Abbas, il est aussi un grand joueur de daf. Il joue avec les deux mains, un peu comme le tambour indien, sauf qu'au lieu qu'il soit par terre, c'est pris dans le main, c'est un rond. Comme...
Ah oui, on les voit sur les photographies, là. Alors Abbas, où est-il?
Abbas, il est en bas, je crois, non?
Il est en bas?
Est-ce qu'on peut descendre?
Oui, oui,
en bas. Allez, allons-y. Oui. On va descendre un escalier en bois.
Le sous-sol.
On entend la musique, d'ailleurs, de là. Déjà. Bonjour Abbas, qu'est-ce que vous avez dans les mains là?
Ce daf, c'est un instrument iranien, très ancien, qui existe depuis 5000 années. C'est un instrument qui est sacré jusqu'à l'année 1979, après qu'Ayatollah Khomeini a donné un fatwa que la musique c'est haram, ça veut dire c'est interdit. Et le chef de Darwish, il a donné autorisation pour jouer dehors.
Décrivez-nous l'instrument qui est comme un tambour sous la forme d'un disque. Hein.
Oui. Partout dans le monde, vous trouvez ça. Vous y trouvez la même dans notre pays, mais il n'y a pas des anneaux dedans.
Alors, il y a des anneaux derrière.
Oui, il y a énormément des anneaux. Voilà, ça c'est le son.
Magnifique, ouais.
Oui, ouais, pour présenter les sons.
Alors, ouais. Vous donnez des cours à Abbas oui, Bakhtiari parce que vous avez fondé ce centre culturel ici et vous donnez des cours. Alors, vous avez une demoiselle face à vous. Bonjour, Christelle.
Bonjour.
Seule chose qui est très, très, très importante, gardez votre physique très, très relax. Ouais.
Bon, on va vous laisser donner le cours à Christelle, finir votre cours avec ces instruments, le DAF, magnifique instrument. Merci ouais. Beaucoup, Abbas.
Merci.
On va terminer avec une citation de vous, Reza. Vous avez dit « Je ne veux pas de misérabilisme, je veux des moments de poésie ».
La poésie, c'est celle qui crée le meilleur dans l'homme. Enfin, pour moi, la poésie, c'est un art suprême. Dans toutes les langues, ça existe. Et ça va assez loin dans l'âme et dans l'émotion. Donc...
Et vous êtes un pacifiste et vous resterez toujours un pacifiste, c'est ça?
Oui. Quand vous avez vu la souffrance de population dans le monde, que ce soit des guerres ou conséquences de guerre ou pauvreté, une fois que vous avez vu ça, vous ne pouvez qu'être pacifiste.
Merci beaucoup Reza, merci infiniment pour cette balade ici dans le quartier iranien à Paris, autour du canal Saint-Martin. Merci, vous êtes un immense photographe, on est ravis de vous avoir à chaque fois et ravis de vous avoir dans la librairie francophone estivale. À bientôt Reza.
Merci beaucoup et surtout maintenant on va passer à table,
oui.
Manger
oui,
iranien.
Bon. Oui, ça sent bon, allez, allons-y. Merci beaucoup, merci Reza.
À suivre l'entretien de la semaine avec une rencontre exclusive de la librairie francophone, nous irons à Namur pour une conversation entre l'acteur Benoît Poulvorde et le dessinateur Daniel Gossens. Et voici le nouveau titre de Vianney dans la librairie francophone estivale.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi, je voudrais. qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer. Et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Après le « Moi vouloir toi » de Françoise Hardy, c'était le « Moi aimais-toi » de Vianney sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Cap sur Namur, en Belgique, pour cette nouvelle escale avec deux grands entretiens et un entretien croisé complètement surréaliste. Benoît Poelvoorde est un fan absolu des bandes dessinées de Daniel Gossens. Alors, nous avons organisé cette rencontre radiophonique. Bonjour Daniel Gossens.
Bonjour.
Bonjour Benoît Poelvoorde.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission qui est un peu la vôtre maintenant. Daniel, vous êtes l'un des dessinateurs emblématiques de Fluide Glacial. Vous êtes un immense dessinateur, mais vous déroutez parfois le public avec un humour absurde, décalé. Vous mettez en scène des personnages, des histoires improbables. Il y a un jeu d'acteur, une interprétation presque théâtrale dans vos dessins. D'ailleurs, je crois que vous auriez aimé être acteur.
J'aurais aimé avoir la capacité à l'être, mais j'ai aucun talent pour être acteur. Benoît a l'impression que c'est facile, il me dit toujours, moi ce que je fais, tout le monde peut le faire, et c'est faux. Et il ne se rend pas compte, mais il a un ton, il a une façon de jouer. Moi j'arrive à le faire en dessin, et je n'arrive pas à le faire du tout en parole.
Voilà. Vous le faites au fond de vous, dans votre esprit, on a tous des voix comme ça. Et c'est vrai que Benoît Poelvoorde a ce talent-là, c'est quand on l'entend lire. On a cette voix, il nous rappelle la voix qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on se crée des personnages, on se fait notre petit théâtre quand on lit une BD.
Absolument, mais ça se passe effectivement à l'intérieur de moi. Quand je lis une BD, n'importe laquelle, effectivement, les personnages jouent dans ma tête, mais si je veux ensuite, le montrer, donc l'exprimer aux autres, c'est cauchemardesque, catastrophique, je suis pas doué, c'est ce qu'on appelle, et la majorité des gens sont pas doués. Et Benoît sous-estime le talent qui s'est développé en pratiquant ça, probablement depuis qu'il est tout petit.
Oui, mais c'est parce que c'est jubilatoire, j'ai un plaisir jubilatoire. Ça n'a rien à voir avec une question de technique ou de... C'est l'ordre de la jubilation, c'est-à-dire que je les entends, donc je pourrais les répéter 15 fois. En plus, je suis quelqu'un d'assez... je peux faire 15 fois les mêmes blagues. Hein. Donc, je peux rire encore 20 fois de la même blague. Tu vois, quand je fais Louis, qui est au téléphone et qui dit « Oui, mais tu m'en fais pas parce que t'as pas dit allô !» Je le vois, quoi, je l'entends et je voudrais... Il manque que le son sur les BD de Daniel, et donc je me la fais moi-même. même, je l'entends dans ma tête. Et comme je dis, il a quand même fait la première bande dessinée pour sourds et malentendants. Mais ça, je demande à tout le monde de se plonger dans l'œuvre de Daniel Gossens.
Daniel Gossens, vous venez de publier Combat aux éditions Flûte Glaciale. C'est un album très représentatif de votre univers, je trouve. Vous êtes parti de l'idée que nous créons tous des combats intérieurs. On trouve toujours un prétexte pour avoir un combat à mener.
Voilà, j'ai cette impression qu'on vit avec la tentation permanente de trouver enfin un combat. On a une sorte de procès chronique dans la tête contre les autres, tu vois. Je veux dire, on aimerait bien que nos mérites soient reconnus, on aimerait bien être à l'avant-plan, toutes ces sortes de choses. Ça, c'est d'une banalité énorme, hein. Quand tu lis le fonctionnement social avec cette grille, d'un seul coup, il y a plein de choses qui t'apparaissent d'une clarté, d'une limpidité. Voilà.
Quel combat menez-vous alors, Benoît ? Mon petit Benoît, quel combat menez-vous ?
Excusez-moi, je termine ma cacahuète. Je pense que je n'en ai pas. Tout est combat, parce que tu te dis, j'ai acheté un bête truc sur une... Ah, ça me fait rire. Dans une station essence, et c'est un bête dessin. Et tu sais, c'est les magnètes qu'on met sur les frigos. Il est écrit avec une phrase, tu sais, une vilaine typo. Pour arrêter de boire, et toi, t'as juste un mec, il faut éloigner ton verre. C'est tout. Eh bien, je trouve, voilà, c'est déjà un petit combat. Et j'ai dit, ça me fait tellement rire, ce dessin stupide. Le gars, il est là, et le verre est à 10 cm. Et tu dis, pour arrêter de boire, il faut éloigner ton verre. En général, tu le colles sur le frigo, tu vois. Et ça, c'est des petits combats.
Dans cette BD, il y a Jésus qui revient avec un nouveau combat à mener, sauf qu'il roupille plus qu'il ne travaille. Il y a aussi Dieu complètement dépassé qui va se défouler dans un bar du coin. Même Dieu ne peut pas mener normalement un combat aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Au contraire, il est préparé. Il s'endort parce qu'il est trop bien préparé.
Oui, enfin.
Non, il veut bien revenir sur Terre, mais maintenant il a potassé, quoi. Donc, c'est un mec.
Il roupille.
Bah, il s'ennuie parce qu'il connaît le sujet et que tout le monde est d'accord avec lui en disant évidemment, j'aurais pas fait autrement. Bien sûr, monsieur Jésus, évidemment.
Bah, les combats sont souvent ridicules par la démesure, pas par le combat lui-même. Justement, la dérision, pour moi, elle se moque pas des combats eux-mêmes, hein, uniquement de cet emballement invraisemblable qui est une mine quand on fait de la dérision, quoi.
Ah, oui, c'est vrai.
On puise là-dedans.
J'ai entendu une phrase formidable de, parce qu'il y a tout le temps la question, peut-on rire de tout? Et il y a que c'est un dessinateur qui s'appelle Luz, je crois.
Oui, oui.
Et qui a dit, oui, il faut juste savoir pourquoi on rit. Et c'est une très bonne réponse. Je dis, mais en effet, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue, tu vois. Parce qu'il y a la phrase de Desproges, oui, mais pas avec n'importe qui. Et je trouve que cette réponse est formidable. Oui, mais pourquoi on rit? Ce qui me fait rire, parce que je ris tout le temps, c'est les commandements. Parce que tu te dis, il y avait un dessin. C'était pas Gottlieb qui avait fait, oui, il laisse tomber tous les... Ah non, c'est les Monty Python. Il laisse tomber toutes les tablettes, il dit, bon, ben, il y en aura 10, allez. Mais non, ce qui me fait rire, il y en a un qui s'appelle quand même, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et là, j'imagine vraiment un mec qui dit, rajoute ce truc-là. Et j'imagine l'autre qui est en train de taper le truc, il dit, mais non, ça sert à rien, c'est parce que t'es concubé, arrête de nous emmerder avec ça. Rajoute-le, je te dis. Mais non, c'est trop terre à terre, quoi. C'est terre à terre, ce truc, hein. Ça te concerne, toi, ça va emmerder tout le monde, hein. Rajoute-le, comme ça je suis peinard. Ok, d'accord. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce que Daniel fait très bien, c'est qu'il déjoue tous ces trucs-là.
Ouais, c'est ça.
Si tu veux rigoler de la religion, tu te dis, écoute, il a quand même fait Jésus, les dernières images de Jésus avant l'accident, en vidéo. Donc, il dessine de la vidéo. Essayez déjà de voir comment on fait.
La vidéo de surveillance qui a suivi Jésus.
Voilà, qui a suivi Jésus juste avant de monter sur la croix, et on le voit rigoler. Donc, tu vois 10 secondes, tu vois une image de Jésus qui est là, il rigole encore avec ses bourreaux. Donc, on voit les Romains. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Et là, il déjoue la télévision.
Revenons à Combat, ce nouvel ouvrage de Daniel Gossens.
C'est un peu court.
Mais justement, dans la foulée, moi, je trouve que Benoît le fait très bien.
C'est mon œuvre.
Bah oui.
On n'y arrive pas.
Tu vois, comme Odal fait très bien, ça, de se moquer, par exemple, du 11e commandement, c'est l'11e ou...
Le commandement. Pas la femme,
ouais,
de ton voisin.
La femme de ton voisin, je sais plus.
Je sais pas, le 4e. Ouais. Il a commencé le matin. Hein. C'est dans l'après-midi. C'est pas un mec de l'après-midi. Il en tenait une grosse vers la fin.
Tu vois, on a envie de. Voilà, c'est... prenons l'exemple de Jésus. Si tu parles à quelqu'un qui dit Jésus, c'est l'incarnation de la faiblesse, de la souffrance humaine, etc. On peut pas se moquer de ça, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose de puissant dans Jésus. Alors c'est quoi, s'il est l'incarnation de la faiblesse et tout ça? Il y a quelque chose de puissant, et tout le monde le sait, c'est l'influence. Voilà, l'influence sociale qu'il a. Et tout le monde peut utiliser Jésus pour vendre n'importe quoi, pour faire une secte, pour... Et c'est ça, c'est de ça qu'il faut se moquer, tu vois? C'est de la mise en scène.
Je voudrais quand même faire une petite...
Benoît Poulevard.
Oui, un petit rajout, ce dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le dessin, le dessin de Daniel Gossens. Tu es un dessinateur époustouflant. À mes yeux, époustouflant.
Il sait tout faire, c'est vrai.
C'est-à-dire que moi, c'est une des rares fois où j'ai vu dans ma vie quelqu'un où son mode d'expression est à la hauteur de sa pensée.
Oui, c'est vrai, il suffit d'aller voir sur Internet d'ailleurs, hein, si on ne connaît pas Daniel Gossens, d'aller voir les dessins de Daniel, c'est incroyable dans tous les genres, un dessinateur exceptionnel. Daniel Gossens, vous avez dit que Benoît Poelvoorde, je cite, « incarne complètement cette hystérie communicante que je tourne en dérision dans tous mes albums ».
Oui. Je confirme, je te dis, quand tu me dis cette idée que le dessin est toujours adéquat avec ce que je veux faire jouer au personnage, au final, j'ai quand même une seule façon de faire jouer des personnages, et moi je trouve que t'as ça, voilà, dans le jeu d'acteur.
Toujours dit, bon, on va pas se congratuler comme ça, respectivement.
Il est gêné maintenant.
Oui, c'est gêné. Mais
toujours gêné. Quand on lui fait des compliments, bon, non, il est gêné.
Mais là, il a raison, parce que
par contre,
c'est
il en fait plein aux autres.
Bonjour, John.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça, on vous connaît, Benoît. Pas tout le monde. On va terminer avec une citation de Combat, complètement misogyne. On peut dire ça à la radio, finalement. Bon, ça a suscité des réactions, mais bon, une voiture consomme beaucoup moins qu'une femme nue. Elle est plus simple à nettoyer, on peut la caresser quand on veut.
Mais attendez, il faut le situer dans son contexte. On est dans un cas de figure où la femme nue ne fait plus recette. Et donc, il y a des gens qui se réunissent entre eux pour dire « on va mettre une bagnole en dessous ». Et donc, il y a forcément des hystériques de la femme nue. Tu vas dans les salons de voitures, pourquoi il y a des pauvres filles qui sont debout toute la journée avec des hauts talons et qui attendent bêtement près de la voiture? Tu te dis, le jour où quelqu'un va dire « je crois que ce n'est pas logique », on n'a pas encore vu avec une très vieille femme. Tiens, une très vieille femme qui tire là. Oh ben, c'est vous, c'est quelle bagnole? C'est celle-là, moi. Peut-être qu'un jour les modes vont changer. Et c'est ça, déjouer les codes. C'est rire où tu te dis, tiens, on va mettre une femme très très âgée qui vend une voiture. Et peut-être que ça fonctionnera. Peut-être qu'un jour quelqu'un va nous dire, on s'est gouré sur les codes. Merde.
Merci beaucoup, Daniel Gossens. Merci
infiniment. Merci à vous.
Merci beaucoup, Benoît Poelvoorde.
Merci, c'était un plaisir.
Pour votre grande fidélité à la librairie francophone.
Ah,
voilà.
J'adore. De toute façon, j'adore. J'adore le fait qu'on prenne le temps de partager. Je trouve ça formidable.
Merci, Benoît. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vous pouvez retrouver les dessins de Gossens dans Fluide Glacial, série Or, été 2017. Benoît Poelvoorde sera, lui, le week-end du 25 août à Namur pour la 5e édition de son intime festival. Notre séquence humour à présent, chaque semaine, un humoriste francophone porte un regard sur nos sociétés et cultures francophones. Aujourd'hui, c'est un humoriste nigérien, collaborateur phare de RFI. Bonjour Maman.
Bonjour Emmanuel.
Alors, à travers la francophonie, les mots et les expressions changent en fonction des populations et des endroits.
Oui, un dicton africain dit que les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix, pour signifier qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton, même s'ils sont tous très différents. On peut appliquer ce dicton aux mots et expressions de la langue française qui, comme les moutons, peuvent se promener ensemble sans avoir le même sens selon l'endroit où l'on se trouve. Vous me suivez, Emmanuel ?
Oui, à peu près, oui.
Par exemple, quand les médias et les hommes politiques parlent de la communauté internationale, ben un citoyen français, américain ou allemand ne se pose même pas la question. Il sait de qui on parle. Il sait que son pays, la France, les États-Unis ou l'Allemagne, eh ben son pays y est dans la communauté internationale. Mais un ressortissant d'un pays africain, par exemple Tchad, Togo ou Centrafrique, ben il sait d'office qu'on ne parle pas de lui. Il sait que la communauté internationale, eh ben lui, citoyen d'un pays pauvre, il n'est pas dedans. La communauté internationale, ben sans citer de nom, on sait qui en est et qui n'en est pas. De même que quand on dit les bailleurs de fonds, ou bien les donateurs, ou alors les pays riches, c'est du français, c'est des mots qui paraîtront vagues et trop généraux pour un béotien, mais celui qui les prononce, ben il sait exactement de qui il parle, tout comme le sait l'auditeur qui reçoit ces mots à Ouagadougou, Brazzaville ou Niamey, auditeur ressortissant d'un pays pauvre en voie de développement, pays pauvre très endetté, PPTE pour les intimes, toutes appellations qui désignent très précisément, mais sans citer quiconque. C'est des mots de la langue française qui se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Prenons un autre groupe de mots, opinion publique. De la France, on dira opinion publique française. Des USA, opinion publique américaine, et ainsi de suite pour l'anglaise, l'espagnole ou même la japonaise. Mais d'un pays arabe, on dira la rue arabe. Bah oui, comme si du Caire à Tunis, en passant par Bagdad ou Amman, l'opinion publique se forgeait dans la rue et pas dans les sondages ou les enquêtes d'opinion comme à Paris, Washington ou Londres. Quand il s'agit de Dakar, Yaoundé ou Kinshasa, ben on ne parle pas d'opinion au public sénégalaise, camerounaise ou congolaise, mais plutôt des masses africaines. Ben oui, dans une sorte de renvoi subliminal à la massive démographie galopante locale et à ces Africains qui, décidément, font des enfants à masse, comme le dirait l'autre Emmanuel. Oui, Jupiter, pas vous, Emmanuel. Les mots se promènent ensemble, mais n'ont pas le même sens selon qu'on soit à Paris ou en banlieue parisienne. Ainsi, là où les privilégiés habitants de Neuilly-sur-Seine ou du 16e arrondissement de Paris sont tous des riverains qui, par exemple, protestent contre l'installation d'un centre d'accueil de migrants ou de sans domicile fixe, eh ben, quand il s'agit des moins privilégiés habitants de la Seine-Saint-Denis ou du Val-d'Oise, ben, ceux-ci ne sont plus des riverains, mais des populations des quartiers. Les mots et les expressions se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix et c'est toujours les mêmes qui prennent cher.
Merci beaucoup Maman pour ce vrai édito humoristique, hein, dites donc, très engagé. Et Emmanuel est un très joli prénom. Merci Maman, à très bientôt. Avant de retrouver Laurent Godet et Eric Fotorino dans le club francophone, voici l'artiste camerounais Blik Bassi pour un titre en acoustique dans notre studio. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Jalunkos Jali nom long bongol wanu aganom male punyo on mantiwani male buno on mampu suai. Pija unja on venti wanin Pija unja Plati wa makone Chon benga ni longa Ige yombongi Bonga Tila ma bon le bon chel.
Blik Bassi, JM dans la librairie francophone estivale.
Radio-télévision suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Chaque semaine, nous donnons donc carte blanche à un auteur ou un artiste qui est fidèle à la librairie francophone depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est Laurent Godet qui est avec nous avec la complicité d'Éric Fotorino. Alors Laurent, vous avez eu carte blanche pour préparer avec nous cette séquence. Vous êtes le rédacteur en chef. Avant de vous laisser diriger cette émission, un petit rappel pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez publié votre première pièce de théâtre à 25 ans, Onisos le Furieux. Votre premier roman à 29 ans, Cri. 3 ans après, vous décrochez le prix Goncourt avec Le Soleil d'Escorta. Depuis, vous avez enchaîné les succès littéraires Eldorado, Ouragan ou encore votre dernier chef-d'œuvre Écoutez nos défaites, sorti en septembre 2016. Tous ont été salués par le public avec des ventes en librairie considérables. Vous êtes à la fois précoce, brillant et populaire. Et comme vous êtes modeste, vous ne pouvez pas réagir à ces compliments.
Voilà. Ouais. Silence.
Silence. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors pour compenser, il y a les bacheliers du bac 2015 en France qui vous ont durement attaqué, ce qui finalement vous a donné un petit côté punk avec cette histoire de tigre
qui
bleu.
Qui manquait à mon côté gendre idéal, absolument. Oui, oui, oui,
du coup, alors on rappelle quand même aux lycéens qui vous détestent aujourd'hui que vous avez eu le prix Goncourt des lycéens en 2002 avec La Mort du Roi de Songor.
Non mais c'est terrible, parce que c'est une génération maudite, parce qu'en fait il s'est trouvé que dans le système d'éducation français, effectivement c'est la même génération qui avait eu en fin de troisième un extrait du Soleil d'Escorta et qui quelques années plus tard se retape du Godet au bac, et donc eux vraiment ils me détestent.
Bon voilà, le tigre bleu, rappelez-vous de ça, hein, vous qui nous écoutez et qui êtes en vacances peut-être avec le bac en poche ou pas à cause de Laurent. On commence par quoi, Laurent Godet, votre lien avec Éric Fotorino par exemple?
Eh ben volontiers, mais juste une petite incise, je peux pas ne rien dire de ce cher monsieur Poulvord qu'on a entendu tout à l'heure, et je voulais juste dire que à l'antenne comme ça que j'ai un souvenir ému d'un passage à Namur avec Benoît Poulvord où j'ai eu le grand privilège non pas de conduire sa voiture parce que c'est lui qui conduisait, mais comme il avait le bras en écharpe, il me demandait régulièrement de changer les vitesses et j'avais jamais fait ça avant. Conduire à deux avec Benoît Poulvord, c'est un joli moment, voilà.
J'ai aussi de grands souvenirs avec Benoît Poulvord à Namur que je tairai ici. Éric Fotorino, allons-y, enchaînons vite.
Alors Éric, je suis très heureux qu'il soit là parce que Éric, c'est un homme que j'admire énormément. En fait, je vais le dire aussi simplement, il va se taire comme je me suis dit tout à l'heure. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup. En fait, c'est son appétit que j'aime bien et sa curiosité. Donc je trouve que les gens capables comme ça d'être tout le temps dans l'élan, quoi qu'ils aient fait avant, réinventer de nouveaux défis, de nouvelles aventures, c'est ce qui s'est passé avec Éric quand il a quitté la direction du Monde, ce qui est quelque chose qui aurait suffi à beaucoup de gens. Hein, d'avoir été à un moment donné
le patron du Monde.
Éric, il a inventé une nouvelle aventure avec ceux qu'il aimait, ceux qui l'entouraient. Ça s'appelle Le 1. Ouais. Et c'est un très très beau résultat. J'ai eu la chance d'y collaborer. Voilà, j'aime bien cette espèce de désir en fait qu'il a. C'est un homme de désir. Ça force l'admiration.
Alors Éric Fotorino, homme de presse, né à Nice, la plus belle ville de France.
En toute objectivité.
Vous avez été chroniqueur du Tour de France aussi à la télévision. Vous avez quand même publié 35 livres, Éric, parce qu'on oublie ça, mais c'est considérable. Hein. Vous avez une œuvre magistrale et considérable. Et vous avez en commun avec Laurent Godet cet intérêt pour le Monde.
Oui, c'est vrai. D'abord, on ne voit pas, mais je rougis. J'ai le micro, j'ai du rouge là, mais ça déteint sur mes joues des mots de Laurent. C'est vrai qu'on a ça en partage. Je crois que même sans en avoir souvent parlé ensemble comme ça, mais parce qu'on s'est lu. Et moi surtout, j'ai beaucoup lu Laurent. Et puis cet attachement qu'il a au Monde, aux gens justement des marges, aux gens dont on parle seulement quand il y a des catastrophes, quand il y a des drames. Et puis il a cette capacité à travers à la fois le roman, le théâtre, la poésie, de faire vibrer les mots, et quand Laurent lit lui-même ses poèmes, c'est quelque chose qui évidemment vous traverse. Donc bien sûr, c'est un écrivain Monde, quand on peut dire,
c'est
dire
un, ça. Un écrivain ça. Reporter aussi, parce que vous flirtez avec le journalisme très souvent.
Mais c'est une chose que j'aime beaucoup, et c'est pour ça aussi que je suis très heureux que Éric soit là. Je suis convaincu que les écrivains et les journalistes ont le même territoire de jeu, si je puis dire. Ils ne font pas le même métier, ils n'ont pas la même voix, ils n'ont pas la même mission, mais il n'y a aucune raison de ne pas envoyer ces deux métiers aux mêmes endroits. Et simplement, ce qu'on va en tirer les uns ou les autres donne des lumières différentes sur une même problématique. Et c'est le pari que fait Éric avec son journal Le 1.
c'est de mettre à contribution énormément de romanciers, d'auteurs, de poètes.
Ouais, c'est ça, c'est votre engagement, ça, Eric Fotorino. Oui. C'est votre engagement citoyen. C'est ce que c'est vous avez choisi, puisqu'on vous demande de réfléchir à un engagement.
Oui,
vous savez, c'est ça l'engagement.
C'était mon école du monde, c'est que je ne signais jamais de pétition. Je n'ai jamais signé de pétition. Je ne signe pas des pétitions, parce que je dis toujours, moi, je m'exprime autrement. Je m'exprime à travers les journaux que je fais et les auteurs à qui je confie des tâches. Et je me souviens d'un texte magnifique que Laurent a écrit il y a quelques mois qui s'appelait Sigil la France. C'était un numéro qu'on a appelé Calais, une honte française. C'était pas un texte de journaliste, mais c'était un texte de quelqu'un qui était allé respirer le même air que ceux dont il parlait.
Alors on va revenir sur ce sujet-là, parce que c'est votre engagement d'auteur et engagement citoyen aussi. Cette défense finalement des migrants, vous avez un propos très engagé, vous allez nous raconter dans un instant. Avant cela, vous avez choisi d'écouter un peu de musique, on va faire une transition douce parce que c'est quand même l'été. On va essayer de se détendre un peu. Et vous avez choisi Soit de Massy.
Mais oui.
Génial, magnifique, Soit de Massy. Avec Amessa.
Ah voilà.
Voici un extrait. Connaissez Soit de Massy?
Non. J'adorerais.
Bon voilà, ouais. Appel à Soit de Massy. Voilà. Laurent Godet souhaite vous rencontrer. Ah mais ça, il faut écouter Soit de Massy, c'est absolument magique, ouais, hein, c'est merveilleuse. Laurent, vous avez donc été dans des camps de migrants, vous êtes aussi parti à Haïti après le tremblement de terre, constaté aussi le désastre. Ces spectacles de désolation, que provoquent-ils en vous? On a l'impression que depuis que vous avez publié Eldorado, qui racontait justement l'arrivée de ces immigrés à Lampedusa, ça ne vous a jamais quitté.
C'est-à-dire qu'honnêtement, quand j'ai écrit Eldorado, Eldorado est un livre que j'ai écrit à mon bureau, sans avoir du tout fait les voyages qui correspondaient précisément au lieu dont je parlais. Et donc, je suis aussi un citoyen, pas qu'un auteur, donc j'ai continué, comme chacun d'entre nous, à être accompagné par cette problématique, par ce phénomène. Et c'est vrai que c'est pas possible de fermer les yeux en disant ça y est, j'ai déjà traité. Enfin, ça voudrait dire quoi? Donc, effectivement, j'ai continué à être.
Vous allez très loin, vous parlez de défaite. Hein. Vous avez dit dans le 1, justement, d'Eric Fotorino qui est face à vous, la défaite, c'est cela que l'on ressent d'abord dans les camps de réfugiés. La défaite de ces sociétés qui ne parviennent plus à protéger leur population.
On ressent plusieurs défaites. Il y a celle-là, il y a celle des États. C'est quand même souvent le cas. Mais il y a aussi la défaite plus profonde, plus intime. Les visages qu'on a face à soi, c'est des visages de gens qui ont perdu, qui ont été vaincus par le malheur, par les coups du sort. Et ça, c'est des regards ou des sourires tristes ou des attitudes qu'on peut pas oublier.
Eric Fotorino, je vois très attentif votre coup de gueule, puisque vous devez aussi présenter un coup de gueule. C'est dans le sens de Laurent
Godet.
Oui,
alors, vous savez, il y a des morts qui ne font pas de vagues. Et pourtant, elle se passe au milieu de la mer, en Méditerranée. Vous imaginez que depuis le mois de janvier, plus de 100 000 personnes ont fui leur pays, ont traversé la Méditerranée. Et plus de 2200 et quelques ont péri en Méditerranée. Donc plus de 2000, ils arrivent en Italie. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est ça. Donc après, il y a sûrement des plans qui sont prévus par les chefs d'État. Mais pour le moment, les gens meurent, ils continuent de mourir parce que c'est des canaux gonflables qui sont pleins d'hommes et de femmes et d'enfants à ras-bord. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui me choque. Alors, pour ma part, c'est vrai que moi, j'ai la Méditerranée m'a traversée avant que je la traverse, puisque j'ai des origines marocaines, tunisiennes, etc. Donc, cette Méditerranée, pour moi, elle est un peu mon sang. Et je sens là qu'il y a quelque chose contre lequel les mots ne suffisent pas.
Alors vous savez que l'Italie a appelé l'Europe à ouvrir ses ports cet été. Aux bateaux secourant les migrants, il y a des villages du sud de l'Italie qui se sont mobilisés et qui servent de refuge à ces migrants. On va terminer avec quelque chose de plus léger, vos découvertes culturelles, Eric Fotorino.
Alors, je ne sais pas si elle est plus légère, malheureusement.
Moi, j'essaye de porter l'été. Mais bon.
Si vous voulez, au début du mois de juillet, on a appris la disparition de Simone Veil.
Oui.
Et il se trouve que quelques semaines avant, j'avais reçu ce roman d'Olivier Guèze qui s'appelle « La disparition de Joseph Mengele ». Et il y a un passage, le livre est très fort parce qu'il est très factuel, il n'y a pas d'effet d'écriture. Il vous raconte comment cet homme, pendant plus de 30 ans, se cache en Amérique latine, comment le Perón et l'Argentine a hébergé comme ça et recyclé ces nazis. Et il parle de sa peau à un moment donné. Je vous dis juste un mot.
Oui.
Il dit qu'en fait, il n'a refusé d'être tatoué, que son numéro de matricule soit tatoué, Mengele, sur sa poitrine ou sous son aisselle. Ce qui fait que les Américains, quand ils l'ont arrêté après la guerre, ils ont cru que c'était un simple soldat et ils l'ont relâché. Voilà. Donc lui, parce qu'il a refusé ce tatouage qu'on appliquait aussi au SS, a été...
Voilà, rappelez le titre.
Ça s'appelle « La disparition de Joseph Mengele » chez Grasset et d'Olivier Guèze. C'est un livre vraiment qui vous saisit.
Qui sorti quand ?
Qui va sortir,
qui sort pour la rentrée littéraire. Voilà, d'accord. Absolument. Laurent Godet.
Moi, je voudrais vous emmener à Beyrouth, au Liban. Oui. Alors, je sais que ça va pas être facile pour tous les auditeurs, mais juste gardez dans un coin de votre tête que si jamais un jour vos pas vous emmènent dans cette merveilleuse ville de Beyrouth, il y a une petite merveille au cœur de la ville. C'est le musée national libanais, musée archéologique, et notamment depuis novembre 2016, ils ont ouvert une nouvelle salle au sous-sol qui est dans laquelle il y a une quinzaine ou une vingtaine de catafalques phéniciens. C'est absolument magnifique. Et puis cette nouvelle pièce est particulièrement émouvante parce qu'elle raconte aussi un peu l'histoire du Liban. C'est-à-dire que le musée était sur la ligne verte, la ligne de séparation pendant la guerre entre l'Est, Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. C'est un musée qui a subi les obus, les tirs, et de voir que en fait on a réussi quand même à réouvrir le musée, à prendre soin de ces tombeaux qui nous ont été transmis par l'histoire. Moi, c'est quelque chose qui me réconforte
c'est
un petit peu.
Une victoire, oui.
Ouais, on a besoin un peu de consolation.
Ouais, c'est vrai. Après les défaites, les victoires.
Absolument.
Lisez ce livre que j'ai ici, là, sur ce plateau. Écoutez nos défaites. J'avais dit que vous méritiez le Goncourt une deuxième fois à la télévision, mais personne ne m'a écouté.
Personne ne vous a entendu. Il fallait le dire plus fort. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez fait?
Sur TV5 Monde, quand même. C'est international. Ça n'a pas marché. Bon, voilà. Félicitations, en tout cas. Merci beaucoup, Laurent Godet. Merci, Éric Fotorino, d'avoir accepté cette carte blanche. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Et c'est le principe de ce club francophone que nous formons tous à travers cette émission diffusée dans le monde entier. Merci beaucoup, Laurent.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
On termine avec le bonus du club et deux histoires personnelles francophones racontées par nos invités. Histoire que je découvre en même temps que vous tous. À vous l'honneur, Laurent Godet.
Alors,
votre histoire.
Nous sommes au Québec, à Tadoussac.
Oui.
C'est le petit matin et j'ai la chance de partir dans un pneumatique pour aller voir les baleines. Mmh. C'est un souvenir que voilà qui m'accompagnera jusqu'au bout, je crois. La traversée d'abord dans la brume sans rien voir et puis au bout d'un certain temps la brume qui se dissipe et l'apparition des premières baleines avec ce mouvement extrêmement lent et majestueux des dos qui apparaissent, du jet de la baleine, des queues qui retombent dans l'eau. Je me souviens que j'ai pleuré ce jour-là. Et je me suis longtemps demandé après, au fond, c'était des pleurs pourquoi ? Est-ce que c'était des pleurs devant la beauté du monde ? Est-ce que c'était des pleurs devant tant de liberté, encore, quand même ? Ou est-ce que c'était des pleurs devant quelque chose de très lointain ? Je me suis dit qu'il fallait pas oublier ça dans l'écriture. À un moment donné, faire de la place aussi. Et je dis ça parce que souvent, ce que je fais est dur et, et triste. Mais ne pas oublier qu'il faut quand même faire une petite place dans l'écriture à la célébration. Mmh.
Très bien. Éric Fotorino.
C'est dur après. Faut
être
baleines,
à la hauteur. Hein. c'est son esprit tigre bleu, ça.
On est à Dakar à la fin des années 90 et je viens de découvrir un livre d'un homme qui s'appelle Cher Hamidou Kane qui s'appelle L'aventure ambiguë où il raconte l'histoire de Samba Diallo, ce petit gosse qui est dans l'école coranique et sa tante, la grande royale, se demande si il faut qu'il aille à l'école des blancs et elle pose cette question, est-ce que ce qu'il va apprendre vaut ce qu'il va oublier ? Je lis ce livre, je trouve ça formidable, je me dis mais qui est ce Cher Hamidou Kane ? Et je pars à Dakar, j'arrive pour une réunion économique et là un jeune Sénégalais de 25 ans me dit « Monsieur Fotorino, oui, on a un peu de temps, je vais vous emmener voir mon oncle ». Je dis bah oui, pourquoi pas, après tout, voir votre oncle. Mais qui est votre oncle ? Oh, vous verrez, c'est quelqu'un de formidable. Et une demi-heure après, un homme en grand boubou blanc me reçoit et c'est Cher Hamidou Kane.
Voilà, et Cher Hamidou Kane, que l'on prononce Cher Hamidou Kane, vous avez raison, avec L'aventure ambiguë, sera dans la librairie francophone d'ici deux semaines. Vous voyez,
alors, c'est incroyable. Je le salue à
l'avance. La connexion.
Je le salue par avance.
Merci à tous les deux. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret et Leïla Kourousselikoua en France avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation Christophe Imbert avec Éric Morin à la technique. À la semaine prochaine donc pour la suite de ce grand voyage culturel et littéraire avec deux nouvelles surprises. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end, bel été à tous.